La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.
L'invité de la bibliothèque de Radio-Orient est l'historien Mohamed Waldi, auteur du livre « Un esclave entre deux empires, une histoire transimpériale du Maghreb » aux éditions du Seuil. Bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Alors Mohamed Waldi, c'est un ouvrage passionnant que vous publiez puisque vous vous appuyez sur la vie d'une personnalité du Maghreb au XIXe siècle dont l'histoire est une succession de voyages depuis son enfance en Circassie jusqu'à Florence où il va finir ses jours. Cet homme, Hussein Ibn Abdallah, est un dignitaire tunisien qui a exercé ses fonctions sous l'Empire ottoman. Vous nous racontez aussi ce qui s'est passé ensuite, après sa mort. Vous nous faites connaître aussi un groupe d'exilés tunisiens qui gravitent autour de lui. Alors, comment avez-vous croisé la route de ce personnage qui a, pour l'historien, j'imagine, l'avantage d'avoir laissé de nombreux documents ?
Oui, alors on ne connaît pas très bien ce type de personnage parce que c'est le 19e siècle, c'est avant la colonisation d'une partie du Maghreb et notamment là dans ce cas-là de la Tunisie par la France. Donc, mais ce type de personnage était assez courant dans les élites, donc dans les milieux les plus favorisés de l'Empire ottoman. Ça fait partie d'un groupe que j'avais déjà étudié auparavant, ce qu'on appelait les Mamelouks. Donc, ce sont des hommes qui viennent de l'extérieur de l'Empire ottoman. Dans le cas présent, il vient du Caucase, donc du sud de la Russie. Ce sont des hommes achetés dans l'enfance ou parfois dans l'adolescence et qui ont le titre juridique d'esclave. Et ça, ça existait depuis au moins le 8e siècle en islam jusqu'au 19e siècle, dont le personnage que j'étudie, c'est un des derniers mamelouks du monde musulman. Et les mamelouks, les gens savent ce que c'est parce qu'ils savent qu'il y a eu des mamelouks qui ont régné sur l'Égypte, mais ils savent pas qu'en fait, ces mamelouks ont été présents dans un long millénaire d'histoire musulmane jusqu'au 19e siècle. Donc ça fait partie d'un groupe d'hommes qui servaient le gouverneur de la province ottomane de Tunis quand la Tunisie faisait partie de l'Empire ottoman du 16e au 19e siècle. Il faut dire aussi que ce personnage a été placé dans l'ombre d'un autre mamelouk plus important dans l'histoire de la Tunisie, le fameux Khayr ed-Din. En fait, hein, ceux qui ne sont pas familiers d'histoire tunisienne parmi vos auditeurs ne connaissent pas, mais Khayr ed-Din a été présent sur le billet de 20 dinars très longtemps. C'est un personnage qui a été mis en valeur par le nationalisme tunisien, puis dans les écoles tunisiennes, comme un des premiers réformateurs de la Tunisie au XIXe siècle, comme celui qui a permis de construire une Tunisie moderne. Et ce personnage-là, Khayr ed-Din, était lui-même, comme le personnage au cœur de mon livre, originaire du Caucase, du sud de la Russie. Et donc ces deux hommes, Khayr ed-Din et donc le personnage du livre, Hussein Ibn Abdallah, se connaissaient et échangeaient des lettres. Et c'est d'ailleurs une des sources que j'utilise, un des écrits que j'utilise pour reconstituer la pensée du personnage au centre du livre, Hussein Ibn Abdallah, pour essayer de comprendre aussi quels étaient ses sentiments, ses émotions, au moment même où la France s'empare de la Tunisie, parce que lui, il meurt 6 ans après la conquête de la Tunisie par la France en 1881.
Ce livre, justement, vous avez voulu l'écrire pour montrer un aspect encore méconnu de l'histoire du Maghreb, cette transition entre l'Empire ottoman et les empires coloniaux européens ?
Oui, alors ça, c'est fondamental. Le livre, bon, s'adresse à un grand public, mais il s'adresse aussi beaucoup aux historiens ou aux étudiants en histoire. Pourquoi ? Parce que l'histoire du Maghreb, elle est marquée fondamentalement par la colonisation de l'Algérie par la France. Une colonisation extrêmement violente, brutale, tant et si bien, et cette violence de la colonisation justifie qu'on est vraiment focalisé sur cet épisode majeur de l'histoire maghrébine contemporaine. sur la colonisation donc de l'Algérie par la France. Et puis on a aussi focalisé dans l'histoire du Maghreb sur toute la période coloniale, hein. La colonisation aussi de la Tunisie, du Maroc par la France, de la Libye par l'Italie et d'autres territoires marocains par l'Espagne. Et le livre, il dit, oui, ça c'est très très important, cette période coloniale, mais il ne faut pas oublier la période qui précède la colonisation et puis la période de transition entre l'Empire ottoman et la colonisation européenne du Maghreb. Ça c'est fondamental parce que ce que j'essaye de dire, c'est que dans le cas, par exemple, des gens de Tunis, mais on peut le dire aussi pour les gens d'Alger, hein, pour les anciens sujets de la province ottomane d'Alger, l'Empire ottoman est resté important pour les sujets ottomans d'Alger, de Tunis et de Tripoli jusqu'en 1920. Et ça, en se focalisant sur des sources françaises ou sur des sources européennes ou sur la manière dont les Français ou les Européens comprenaient le Maghreb, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas assez vu. Donc il faut à la fois étudier la violence de la colonisation et en même temps comprendre quelle était l'histoire des sociétés maghrébines. Et notamment comprendre qu'une partie de ces sociétés restait dans l'orbite et dans une recherche d'appartenance à l'Empire ottoman, même quand ils étaient colonisés. Donc l'histoire de Hassine Belabdal, elle nous dit que la société tunisienne a... une partie, en tout cas les élites et une partie de la société tunisienne, pensaient rester fidèles au sultan ottoman, même après la prise de la Tunisie par la France. Et là, mon livre ne le montre pas, mais d'autres travaux le montrent, dans le cas de l'Algérie, dont on parle beaucoup en ce moment, notamment avec la politique du président français et celle de l'historien Benjamin Stora. L'Algérie, même si elle a été colonisée à partir de la prise d'Alger en 1830 et dans un long processus, les gens d'Alger, les anciens sujets de la province ottomane d'Alger, certains ont gardé une fidélité à l'Empire ottoman et au sultan ottoman. Hein, il y a des travaux en cours, notamment de Salma Argal, une thèse qui a été soutenue à l'Université de Lyon, qui montre qu'il y avait des migrants algériens dans le centre de l'Empire ottoman, dans la province de Syrie, et qu'ils ont fait partie de la construction de l'Empire ottoman au XIXe siècle. Donc c'est un point très très important. C'est pour dire à beaucoup de mes collègues, il est important d'étudier la colonisation, c'est très très important, mais il est important aussi de ne pas simplement utiliser les sources européennes, d'essayer de voir ce que disent les acteurs de l'époque quand ils écrivent en arabe ou quand ils écrivent en turc ottoman. Parce que ça, c'est comme si on faisait une histoire, si vous voulez, de l'Italie sans source italienne. Ça paraît très bizarre, en fait. Donc, il faut encourager les jeunes étudiants qui sont intéressés par l'histoire du Maghreb à apprendre les langues pour nous donner une histoire plus complexe, encore plus riche, d'un moment déterminant que fut la colonisation du Maghreb, notamment la colonisation de l'Algérie.
Alors, si on possède de nombreux documents sur ce personnage, Hussein ibn Abdallah, mais aussi des photographies, c'est parce que c'était un notable. On sait notamment comment il s'est enrichi.
Oui, c'est le cœur du livre. C'était des dossiers donc aux archives nationales tunisiennes sur les conflits autour de la succession de ce Hassine Ben Abdallah. Donc, on a un dossier assez important. Dans ces dossiers, on a des documents en français, des documents en arabe, en italien, en anglais, parce que c'est un personnage qui, à partir des années 1860, a beaucoup voyagé en Europe. Et je montre aussi qu'il a même voyagé sur la côte est des États-Unis, même s'il ne reste pas beaucoup de traces, et qu'il a même voyagé dans son pays d'origine, dans le Caucase. Et ça, je le dois à un chercheur américain qui a pointé ses archives. Donc c'est un homme qui a beaucoup voyagé, qui était un homme des élites de Tunis, autour du gouverneur de Tunis, donc qui avait des biens, des propriétés foncières dans le nord de Tunis, dans l'actuel port de la Goulette. Donc c'est un homme de poids, hein, et c'est pour ça qu'il y a eu des archives qui sont restées. Mais c'est pas simplement parce qu'il fait partie des élites, c'est aussi parce qu'il meurt en Italie, en Toscane, à Florence précisément, où il était chargé de représenter les intérêts de l'État tunisien. Et le fait d'être mort en exil a fait qu'il y a eu des conflits autour de sa succession. Beaucoup de gens ont revendiqué des crédits auprès de lui, ont revendiqué une partie de ses biens, de son patrimoine. Les autorités françaises qui occupaient la Tunisie et les autorités ottomanes étaient aussi intéressées de savoir quelle était la nationalité de ce personnage pour récupérer non seulement ses biens, mais aussi les papiers qu'il détenait dans ses appartements florentins et toscans. Donc ça, c'était un point très important. Du coup, quand il y a conflit, quand il y a litige, il reste des traces, il reste des papiers, et ça, ça nourrit le travail de l'historien, l'imagination de l'historien. Donc vous avez raison de pointer ce qui est très important, que c'est un cas, c'est un personnage un peu à part, parce que quand les gens meurent, on n'a pas des documents aussi riches sur leur succession et sur les conflits autour de leur succession.
Et alors, pourquoi a-t-il autant voyagé ?
Ah, ça, c'est une question tout à fait intéressante. Il faut se resituer dans l'époque et dans cette période. C'est-à-dire, pour ceux qui ne sont pas familiers, parce qu'on connaît encore une fois plus la période coloniale, le 19e siècle, au Maghreb, mais aussi dans l'Empire ottoman de manière générale, c'est une période qu'on a appelée la période des réformes, des tanzimats. Et ça, c'est très très important, c'est l'État ottoman qui cherche à se transformer, à mettre en place une armée régulière, qui cherche à transformer aussi la fiscalité, les impôts. Et en faisant ça, aussi bien à Istanbul que dans la petite province ottomane de Tunis, c'est-à-dire les petites rentailles, ça c'est important de le réaliser, on a des hommes d'État qui commencent à voyager en Europe. Et ils voyagent en Europe pour explorer les nouvelles connaissances qui se développent en Europe, pour défendre les intérêts des pouvoirs ottomans, que ce soit le pouvoir central d'Istanbul ou les pouvoirs provinciaux comme celui d'Égypte et Tunis. On sait pour l'Égypte que Mohamed Ali a beaucoup réformé l'Égypte, qu'il a envoyé ses officiers, ses hommes d'État à Paris notamment pour apprendre les nouveaux savoirs. Et Hassim Ben Abdallah, donc le personnage, lui, part de Tunis pour aller à Paris, pour essayer de faire reconnaître une forme d'autonomie de la province de Tunis auprès des gouvernements européens, pour explorer les nouveaux savoirs, les nouveaux livres qui paraissent à Paris notamment, et puis aussi pour défendre les intérêts financiers de la province de Tunis. Parce que le temps des réformes dans l'Empire ottoman, c'est un temps de transformation militaire et fiscale, c'est un temps aussi d'expansion financière. Les États ottomans ont besoin de plus en plus d'argent pour financer ces réformes. Et il faut trouver cet argent. Et il se trouve que ceux qui essayent de trouver cet argent ou de gérer ce nouvel argent, certains vont détourner des fonds publics. Et notamment, deux grands financiers tunisiens vont détourner des fonds publics et quitter la Tunisie à partir des années 1850-1860. Donc les histoires de corruption, elles ne sont pas que récentes. Hein. Elles ne datent pas que des régimes autoritaires. Il y a, depuis le 19e siècle, les détournements de fonds. Et Hassine va aller voyager beaucoup, notamment pour représenter les intérêts de l'État tunisien, pour récupérer une partie de ses biens dans deux affaires que je présente dans le livre, que je n'ai pas le temps ici de présenter dans l'interview. Et puis, c'est un homme qui va voyager plus loin que l'Europe, et ça, c'est intéressant, donc je l'ai dit, sur la côte est des États-Unis, mais aussi dans sa région d'origine, d'enfance, le Caucase, soit par intérêt personnel, pour le cas des États-Unis, pour explorer une nouvelle terre, pour comprendre un peu plus ce domaine-là. Mais étonnamment, il n'y a rien, il n'y a aucun écrit sur ce voyage des États-Unis, il n'y a que des preuves par le consul des États-Unis à Tunis. Mais dans le Caucase, c'est plus intéressant. C'est quand même un homme qui a été séparé de sa famille dans la plus grande enfance et qui a quitté le Caucase et qui a oublié complètement ses origines. Donc il revient dans les années 1860, donc plus de 40 ans après être arrivé à Tunis, et il essaie de retrouver ses origines. Il faut quand même s'imaginer ce type de situation-là pour un enfant esclave qui est devenu adulte. Et là, dans le Caucase, il ne retrouve pas grand-chose, en fait, selon le chercheur américain qui m'a indiqué les archives en russe de l'époque. Et il ne retrouve pas sa famille. C'est un peu dramatique, mais lui-même, étonnamment, ne parlera pas non plus de ce voyage dans le Caucase. Il y a des choses qui n'apparaîtront pas dans les lettres que nous avons aujourd'hui. Par ailleurs, il a rédigé un récit de voyage, une rihla, dont on a le titre à la Bibliothèque nationale tunisienne, mais qui n'y est plus, en fait, qui a disparu. Donc voilà, il faut aussi comprendre que des choses nous échappent dans toutes les missions et les explorations de ce personnage tout à fait riche et qui a beaucoup, beaucoup voyagé.
Mohamed Waldi, Hussein Ibn Abdallah va décéder en Italie. Son corps va reposer d'abord dans le cimetière musulman de Livourne avant d'être envoyé en Turquie. Pouvez-vous nous raconter cet épisode ?
Ah oui, alors il y a deux phases. D'abord, donc le fait d'être inhumé à Livourne. Ça aussi, beaucoup de nos auditeurs ne le savent pas. Mais en même temps, c'est une histoire qui commence à être écrite. C'est que dès l'époque moderne, hein, pour nous, l'époque moderne, pour les historiens, c'est le 16e, on peut aller jusqu'au 19e siècle pour le Maghreb, mais dès le 16e, surtout 17e, 18e siècle, des cimetières musulmans vont être fondés en Europe. Et un cimetière musulman est créé à Livourne parce que Livourne était un port très important dans les échanges entre le Maghreb et l'Europe. Donc des hommes d'origine maghrébine, qu'ils soient juifs ou musulmans, mouraient à Livourne. Et les musulmans seront enterrés dans une partie particulière de Livourne. Et ça, au moins dès le XVIIIe siècle. Et finalement, Hafsin, qui meurt en 1887, est enterré dans un vestige de ce cimetière qui datait du XVIIIe siècle. Sauf que quand Hafsin est enterré, le cimetière, qui avait été notamment géré par les Ottomans de Tripoli et puis ceux d'Alger, donc en 1887, ce cimetière est sous la gestion de l'Empire ottoman. Et donc le consul ottoman présent à Florence enterre Hafsin à ce moment-là à Livourne, parce que en fait on ne sait pas trop quoi faire de ce corps-là, de ce corps de cet homme exilé et défunt. Son ancien maître, qui est le gouverneur de Tunis, ne veut pas le rapatrier, et parce qu'il trouve que ce Hafsin Ben Abdallah est un rebelle, qu'il s'est moqué des gouverneurs ottomans de Tunis, donc il n'a pas vraiment d'intérêt à le rapatrier, à de l'enterrer à Tunis. Et puis par ailleurs, il faut bien se rappeler qu'à l'époque, les voyages sont très longs, que dans le droit musulman et la pratique islamique, il faut enterrer très très vite un défunt. Et puis enfin, il y a Livourne enterré pendant un certain nombre de semaines, parce que à Livourne, il y a, si je puis me permettre, mais je vais quand même y aller, il a une maîtresse qui est une ancienne domestique italienne avec qui il a eu au moins une fille. Donc elle peut faire le deuil, même s'il ne s'est jamais marié avec elle, même s'il n'a jamais reconnu comme la mère de son enfant, cette femme peut faire le deuil de Hafsin Ben Abdallah. Et puis dans une deuxième étape, finalement, les autorités ottomanes à Istanbul et surtout l'ami d'Hafsin, Khayreddin, qui a donc été un homme d'État très important dans la province ottomane de Tunis, puis qui est parti de Tunis pour rejoindre Istanbul à la fin des années 1870. Donc Khayreddin décide qu'il faut absolument transporter le corps de Livourne à Istanbul. Parce que, en fait, Hafsin était l'ami de Khayreddin, parce que aussi ça permet à l'Empire ottoman de revendiquer un pouvoir même sur les corps de maghrébins décédés comme celui d'Hafsin, et de rapatrier dans des endroits prestigieux, dans le mausolée de Sultan à Istanbul. Ce transfert va se faire à l'automne 1887, et je le montre parce que en fait, ça éclaire quelque chose d'assez intéressant et qui n'a peut-être pas été assez étudié pour cette période-là. Comment les Ottomans ont une politique de funérailles assez importante et comment cette politique de funérailles de personnages publics comme Hafsin, puis plus tard Khayreddin, leur permet d'affirmer une autorité sur des populations du Maghreb et sur des hommes forts du Maghreb. Au moment même où finalement la Tunisie leur a échappé, elle a été colonisée par les Français. L'Algérie, bon, ça fait des décennies aussi qu'elle est sous tutelle française. Donc la politique des funérailles et la politique des inhumations, elle est intéressante parce qu'elle dit aussi une autre forme de présence ottomane dans le Maghreb colonial.
Merci Mohamed Waldi. Je recommande vivement aux auditeurs de la Bibliothèque de Radio-Orient ce livre, Un esclave entre deux empires, une histoire transimpériale du Maghreb, un livre que j'ai beaucoup aimé. Il est publié aux éditions du Seuil.
C'était la Bibliothèque de Radio-Orient avec Loïc Barrière.